Connaît-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Barthas sur le 107 de la bande FM ou sur internet radiobarthas.net. Il est très exactement midi et des poussières, l'heure de passer une petite heure ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important ici en Lozère, c'est la pêche. Peut-être vous souvenez-vous que le 14 mars dernier, s'est ouvert la saison de la pêche à la truite en Lozère. Et ça m'a donné envie de consacrer une émission à cette discipline, cette pratique qu'est la pêche, pour discuter des différents enjeux qui lui sont liés et ils sont nombreux. J'ai donc contacté Yann Dissac de l'association Floraquoise Agréé pour la pêche et la protection des milieux aquatiques Quatre Rivières, qui a accepté avec plaisir l'invitation et qui m'a proposé de venir accompagné de deux autres représentants du secteur. Vous êtes donc là tous les trois en studio aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Yann, donc, tu es le secrétaire de l'association Quatre Rivières. Tu es accompagné donc de Charles Dutertre. Toi, tu es technicien à la Fédération départementale de pêche, celle de la Lozère, bien sûr. Et Johan Béziat, tu es apprenti en BTS gestion et protection de la nature à la Fédération départementale de pêche. Donc, bienvenue à vous sur Radio Barthas. Pour commencer, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la pêche pour vous ? On va commencer comme ça par une question très subjective pour faire connaissance et après ce sera plus factuel. Est-ce que Yann, tu veux commencer ?
Pour moi, c'est un accès privilégié à la nature et aux rivières qui me fascine depuis tout petit. Donc c'est une activité où j'allie la marche, la recherche des poissons, un petit peu d'escalade parfois et l'observation de la vie aquatique.
Johan ?
Mais du coup, pour moi, c'est avant tout un moment de plaisir et de détente que je cherche toute l'année. Et ça permet aussi de voir l'évolution des milieux aquatiques tout au long de l'année.
Et, voilà. Et Charles ?
Ouais, je rejoins assez les camarades. Et puis, y a aussi autre chose qui est comme une forme de méditation, finalement, aussi. Des fois, on rentre dans une bulle, là, peut bien se passer n'importe quoi autour. C'est vraiment quelque chose qui nous recentre. Et puis aussi, c'est un bon média pour briser un peu ce miroir-là qui est à la surface de l'eau. On essaye de comprendre un petit peu plus ce qui se passe en dessous. Et finalement, on va creuser un monde que certains n'ont pas accès. Et nous, en fait, la pratique de la pêche nous permet d'essayer d'aller comprendre ce qui se passe dans cette eau, quoi.
On rentre dans les profondeurs dans cette émission. Y a une enquête sur la pêche de loisirs en Lozère qui a été menée par la Fédération départementale de la pêche qui dresse un peu le profil type, le portrait robot du pêcheur lozérien. Et donc ça a été basé sur les réponses de 1200 adhérents. Alors j'y ai appris que le pêcheur lozérien, il est à 90% un homme. À 62%, il a plus de 55 ans et ses principales motivations résonnent avec celles que vous venez d'énoncer parce que pour 27% d'entre eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'immersion dans la nature et pour 24%, la détente. Et la prise d'un poisson n'arrive en fait qu'en quatrième position. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Et voilà. Et d'ailleurs, pour 32% des répondants, ils pratiquent le no-kill, donc cette pratique qui consiste à pêcher le poisson et le remettre à l'eau. Ensuite, on en reparlera plus tard, tout à l'heure. Ouais, moi, j'ai été surprise par cette statistique-là de finalement, on pêche pas forcément pour prendre un poisson.
Ouais, il y a plein de choses qui accompagnent ce moment-là de la pêche, en fait. Et effectivement... c'était une surprise aussi pour moi finalement, mais on se rend compte que les gens, ils ont besoin aussi d'accéder à des milieux naturels, d'aller pratiquer des sports autres. Il y en a, ils le font par le biais de l'escalade, il y en a, ils le font par le biais de la pêche. Et finalement, ça semble être quelque chose effectivement que les pêcheurs citent dans les premières sources de motivation en tout cas. Après, il faut dire quelque chose là sur cette enquête. Effectivement, le profil est assez le profil des gens qui ont répondu à cette enquête, C'est des gens qui sont âgés d'un certain âge déjà, mais je pense qu'on sous-estime les jeunes qu'on n'a pas réussi à toucher par le biais de cette enquête. Et pour donner une petite indication, l'année dernière, en 2025, on a gagné 1000 permis de moins de 12 ans, 1000 cartes de jeunes de moins de 12 ans. Donc il y a quand même aussi cette jeunesse qui profite de ce loisir, en plus à des tarifs qui sont attractifs en général aussi pour ces jeunes. Et du coup, ça permet d'offrir une autre possibilité de loisir pour ces jeunes-là, quoi, qu'on n'a pas forcément eu en retour d'enquête en tout cas.
Et pour compléter, nous, on a une école de pêche qu'on appelle un atelier pêche nature. On a entre 15 et 20 enfants inscrits dedans chaque année. Et l'année dernière, on avait autant de filles que de garçons. Et donc ça, voilà, ça nous montre qu'il y a une évolution aussi dans le public de la pêche, dans les pratiquants, et que c'est plus aussi rangé, genré que ça a pu l'être dans le passé. Les filles aussi ont ce besoin de nature, cette envie d'activité sans pression peut-être aussi, par rapport à la danse où il faut faire des galas, au judo où il faut passer des ceintures et machin. Et donc on voit quand même pas mal d'évolution chez les jeunes. Mm-hmm.
En parlant de jeunes, on peut peut-être s'adresser directement à toi, Johan, parce que tu es plus jeune que nous tous ici réunis. Toi, tu as commencé à pêcher déjà dès l'enfance?
Oui, j'avais 5 ans à peu près, la première fois que j'ai touché une canne à pêche. Ça m'a été initié par mon père, du coup. Et depuis, j'ai jamais cessé de m'intéresser à de nouvelles techniques. Ça me permet de pêcher toute l'année, tout le temps, toute espèce de poisson.
Et c'est populaire aussi chez les personnes de ta génération. T'as quel âge? T'as une vingtaine d'années, petite vingtaine d'années?
Ouais, j'ai 18 ans. 18 et ans. Je vois que je suis dans un milieu scolaire où on est cadré vers la nature. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui pratiquent la pêche.
Et surtout en Lozère, parce que donc avec ses 2700 km de rivières classées première catégorie et ses nombreux lacs d'altitude, la Lozère, c'est une terre rêvée pour la pêche. En tout cas, c'est ce que promeut l'édition 2026 de la brochure Passion Pêche en Lozère, qui a été éditée donc par la Fédération départementale de pêche et par Lozère Tourisme. Est-ce que c'est un peu votre bible, cette brochure ?
La brochure, non, c'est pas vraiment une bible, c'est simplement aussi un petit média qui nous permet d'orienter le pêcheur qui a besoin d'informations pratiques, etc. Nous, ça permet de tenir compte aussi des évolutions. Il y en a chaque année, ça peut être réglementaire, ça peut être des évolutions, j'en sais rien, sur les infos pratiques quelconques. Donc c'est ce qu'on distribue quand quelqu'un prend une adhésion, achète une carte de pêche, c'est ce qu'on distribue avec pour l'orienter. C'est une base, effectivement. C'est un outil que le pêcheur peut garder pour savoir quoi faire dans sa saison, savoir là où il a le droit de pêcher, quand, comment, etc. Il y a toutes les infos pratiques.
Oui, il y a toutes les infos. Donc, c'est 22 pages de contenu avec des contacts de guides locaux, des idées d'activités adaptées pour chaque niveau, les parcours de no-kill, justement, et puis les règlements, les périodes dans lesquelles on a le droit de pêcher, les espèces qu'on a le droit de pêcher, et puis des éco-conseils pour une pratique respectueuse de l'environnement. Donc c'est l'outil indispensable à tout pêcheur qui se respecte et qui respecte aussi, parce que ça, c'est très important dans le respect de l'environnement.
Oui, d'accord. C'est parfait.
Et dans cette brochure, la pêche, elle est aussi présentée comme une richesse qui participe au rayonnement touristique de la Lozère. Est-ce que ça, c'est aussi un enjeu? Parce que c'est aussi un secteur économique. Il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Donc, c'est touristiquement parlant, c'est aussi important de faire exister la pêche aujourd'hui.
Oui, effectivement. Puis il y a certainement une sous-évaluation de ce que rapporte la pêche à un territoire, en fait. La Lozère, c'est vraiment une destination de choix, vous l'avez dit, pour la pêche de la truite notamment. C'est historique, en fait. Il y a des gens qui viennent de toute la France, voire même de l'étranger, pour venir pêcher des cours d'eau lozériens. Et du coup, on n'a jamais vraiment fait l'effort de valoriser ça. Mais finalement, on sent qu'il y a des hôtels-restaurants qui, par le passé, tenaient essentiellement grâce à la pêche de loisirs. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de diffus. Et au niveau du tourisme, c'est quelque chose d'important. Pour citer un chiffre, par exemple, on peut dire qu'en Lozère, 75% des gens qui prennent une carte de pêche viennent des départements extérieurs. Ce qui laisse un quart de cartes prises par des Lozériens pour pêcher en Lozère, mais du coup ça donne quand même une idée de l'attraction de ce territoire pour ce loisir.
Et donc cette brochure, pour terminer là-dessus, on peut la trouver dans les offices de tourisme et chez les revendeurs de cartes de pêche ou en ligne, et je mettrai le lien sur la page de l'émission sur le site de Radio Bartas. On va zoomer un peu maintenant, zoomer à l'intérieur de la Lozère pour arriver ici à Florac et pour présenter donc l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 4 rivières. Donc il y a 16 associations de ce type en Lozère qui travaillent étroitement avec la Fédération départementale de pêche. Donc si on veut commencer la pêche, se mettre à la pêche, c'est vous qu'il faut aller voir, Yann ?
Oui, on est une petite équipe de bénévoles répartis sur Florac, Pont-de-Montvert, Ispagnac, Vébron, parce qu'en fait on a un territoire de compétence, on va dire, un territoire sur lequel on s'investit, qui couvre le Tarn depuis sa source jusqu'à Blajoux, une bonne partie du Tarnan à partir de Vébron jusqu'à Florac, la Mimente et même un petit bout du Luèche vers Vialas. Et sur ces cours d'eau-là, ben nous, on a des missions statutaires. C'est pour ça qu'on est une association agréée. On a un peu tous les mêmes statuts. C'est une des particularités françaises de faire que une grande partie du réseau de cours d'eau, de plans d'eau, de canaux soit gérée par des associations pas loi 1901, mais avec un principe assez proche quand même. Et donc, nous, on a donc deux gros pôles de mission. Accueillir les pêcheurs, les informer, faire la promotion de cette activité avec l'école de pêche, avec différentes sorties gratuites, dans les campings notamment. Et on fait aussi un petit peu de surveillance avec nos gardes volontaires. On en a 3 en ce moment, bientôt 4. Donc ça, c'est le premier volet de nos activités. Puis après, il y a des actions sur la conservation des milieux, la préservation des milieux aquatiques. Donc sur Florac, l'air de rien, on a 1000 cartes vendues par an, donc c'est 1000 adhérents. Les gens ne le savent pas forcément, mais quand on achète une carte, on devient adhérent à une association.
Et quand on veut devenir pêcheur, donc on achète une carte de pêche, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce que ça suffit ? Ou est-ce qu'il faut aussi suivre avec vous une initiation, une formation ? Comment est-ce qu'on devient pêcheur, en fait ?
Alors, dans le passé, c'était souvent un parent qui apprenait, qui transmettait ces techniques-là. Les jeunes, ils sont quand même beaucoup plus connectés. Ils regardent des vidéos YouTube, des tutos, des machins. Ils sont plus autonomes. Mais nous, on a une école de pêche qui fonctionne très bien aussi à partir de 8 ans, avec des rendez-vous tous les 15 jours à Florac ou au Pont de Montvert, avec Rémi Vernier, qui est guide professionnel et qu'on rémunère pour que cette activité soit gratuite pour les enfants.
En fait, je pense que souvent, on compare pêche-chasse. Et pour aller à la chasse, il faut passer un permis de chasser.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, à la pêche, non, on est libre à partir du moment où on est adhérent d'une association agréée. Et ben en fait, on peut aller sur les parcours, les parcours qui sont pas en parcours spécifique ou en réserve, quoi. Mais on peut aller à la pêche soi-même, tout seul. Alors c'est plus simple d'être accompagné, et puis pour débuter, ça permet d'avoir les bons réflexes. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez facile d'accès finalement.
Alors, vous l'avez évoqué, Yann, un peu les différentes missions de votre association, et notamment donc la surveillance des cours d'eau. Vous menez des actions de connaissance et de préservation des milieux aquatiques. Est-ce que tu peux nous détailler ? Je passe du tutoiement au vouvoiement, mais peut-être qu'on peut tous décréter à partir de maintenant qu'on se tutoie.
Allez, voilà.
Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce type d'action, votre rôle en fait de surveillance de ces cours d'eau ?
Donc, nous, on n'est pas des professionnels, donc notre rôle, il est surtout d'être des vigies, des observateurs, et ensuite de signaler les problématiques qu'on observe auprès de la Fédération départementale, l'Office français de la biodiversité ou le Parc national, des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là. Mais voilà, on fait un travail de surveillance sur la qualité de l'eau, notamment l'été en période de sécheresse, sur les différentes pollutions, les prélèvements illégaux, des choses comme ça. On participe à des chantiers de nettoyage. On peut participer aux opérations scientifiques de comptage des poissons, ce qu'on appelle les pêches électriques. Et on peut se porter partie civile en cas de pollution s'il y a un procès. Voilà, c'est une de nos compétences. Ça n'arrive pas souvent, heureusement. Et on est, avec la fédération, là, engagé sur un grand projet, enfin, important pour nous en tout cas, de cartographie de la température sur la rivière. Parce qu'on perçoit que le réchauffement des eaux l'été, ça devient un vrai problème pour des poissons et des animaux qui aiment les eaux fraîches, comme la truite. Donc on peut-être en dire un peu plus sur ce projet-là.
Avec plaisir, ouais. Donc vous cartographiez les zones des rivières qui se réchauffent, c'est
voilà.
Ça ouais.
En fait, on a des secteurs, notamment entre Florac Mont-Brun, où la rivière est très large et se réchauffe beaucoup. Et en fait, on a constaté qu'il y avait des températures de l'eau qui étaient incompatibles avec la vie des truites, notamment au-dessus de 25 degrés. Ça devient mortel pour elles, où c'est déjà une source de stress très très importante à partir de 19 degrés. Et malgré tout, il y a des poissons qui sont là. Et on a tous constaté que les poissons se concentraient dans certains endroits l'été. Et en fait, il y aurait des refuges thermiques, des zones avec soit des petites exurgences qui arrivent par le fond d'eau fraîche, soit des zones où alors une belle berge boisée apporte un bon ombrage et donc ça fait une sorte de panache d'eau plus fraîche, ou les bancs de galets que certains voient d'un mauvais oeil, ben en fait ils peuvent aussi servir de filtre et rafraîchir l'eau. Donc l'idée c'est de mieux connaître ces zones fraîches, ces zones chaudes, pour mieux les protéger les zones fraîches et peut-être même faire des aménagements pour refroidir tout ça, afin d'aider la rivière à mieux supporter les effets du changement climatique. Et donc il y a des super techniques maintenant. Donc là l'idée c'est, on s'est rapproché avec la Fédération de pêche d'une entreprise qui survole la rivière en ULM avec une caméra thermique très très précise. Et donc ça donne des cartographies avec des zones bleues pour les zones fraîches, des zones rouges. Et ça permet vraiment, de manière très fine, on a un point tous les 30 cm, de cartographier ce sujet de la température de surface.
Et ensuite, une fois qu'on a identifié la zone où c'était trop chaud, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, c'est là qu'on va essayer de réfléchir. Soit est-ce qu'il y a des plantations à faire à certains endroits ? Est-ce qu'il y a un ouvrage en béton, par exemple, qui peut accentuer cet échauffement ? Et surtout, on va essayer de protéger ces zones de refuge fraîches. Parce que peut-être que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour créer un nouvel accès de baignade. C'est peut-être un endroit où nous, certaines années, comme en 2023, quand il y a eu un arrêt de la pêche, parce que vraiment les eaux étaient trop trop chaudes au mois d'août, ben peut-être qu'on pourrait faire des interdictions de pêche que dans ces zones-là. Ou alors, essayer d'adapter nos pratiques avec les autres usagers de la rivière sur ces zones-là.
Oui, enfin, exactement. Je pense que ça permet aussi de sensibiliser les collectivités, tous les acteurs qui fréquentent les berges du Tarn, finalement, que ce soit les locataires, enfin ceux qui louent des canoës, pardon. Peu importe, il y a plein de monde qui s'intéresse au sujet du Tarn, et en particulier en été. Et en fait, simplement, on peut aussi avoir ce rôle de modérateur, peut-être un petit peu, pour préserver les poissons qui vivent là-dessous, et pas que les poissons, hein, parce que c'est des insectes, il y a toute une faune aquatique là-dedans qui profite de ces conditions, quoi.
Mm-hmm. Et Johan, est-ce que aussi pour toi, une forme de sensibilité écologique, en tout cas d'écoute et d'observation de l'environnement, c'est un peu un prérequis quand on est un pêcheur ?
Oui, parce qu'avant tout, quand on est pêcheur, pouvoir garder une population, on essaye de participer au mieux. Donc, par exemple, moi, en tant que pêcheur, le premier truc que je fais, par exemple, quand je pique-nique au bord de l'eau, je ramasse tous mes déchets. Ça permet de pouvoir garder tous les poissons
en bonne santé.
En bonne santé, et notre petite part écologique est présente aussi.
This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute. Expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Bartas, c'était Iggy Pop et Goran Bregovic sur ce morceau « This is a film » tiré de la bande originale de Arizona Dream, film de Emir Kusturica, morceau dans lequel il est question d'un poisson qui ne pense pas car il sait tout, et morceau que j'ai choisi car on parle de pêche aujourd'hui dans Midi et des Poussières, en compagnie de Yann Dissac, le secrétaire de l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques Quatre Rivières, de Charles Dutertre, technicien à la Fédération départementale de pêche de Lozère, et de Johan Béziat, apprenti en BTS Gestion et Protection de la Nature à la Fédération de Pêche de Lozère.
Midi et des poussières.
Alors récemment, c'était vous avez tenu avec donc, l'association Quatre Rivières votre assemblée générale, c'était le 13 mars, donc c'était l'occasion de faire le bilan. Tu l'évoquais tout à l'heure, vous avez vendu près de 1000 cartes de pêche en 2025. Et j'ai regardé un peu en détail sur le rapport d'activité que tu m'as gentiment transmis. Il y a différents types de cartes, donc il y a des cartes hebdomadaires, des cartes journalières, des cartes pour les moins de 12 ans, et il y a une carte découverte femme. Alors, on parlait tout à l'heure que c'était de moins en moins genré, la pêche, mais qu'est-ce que c'est cette carte spécifiquement pour les femmes?
Eh bien, en fait, c'est national. Donc, il y a quelques années, il y a eu une volonté d'attirer un peu plus de femmes au bord de l'eau. Après, je ne suis pas sûr que la problématique, elle était financière. Hein. Je ne suis pas sûr que c'était le fait d'avoir une carte moins chère qui allait changer la donne. Mais voilà, c'est une opération nationale.
Ah, donc c'est une carte un petit peu moins chère pour encourager les femmes à venir.
C'est okay, ça.
D'accord. Très bien. J'ai lu aussi que donc Rémi Vernier, qui est donc guide que tu as mentionné tout à l'heure, il a réalisé des sorties de contrôle, donc de veille ou en tant que garde du coup, c'est ça, et qu'il a donc contrôlé des pêcheurs. Alors de quoi il est question quand on contrôle des pêcheurs? Qu'est-ce qu'on contrôle finalement?
Lui, il va regarder si les techniques utilisées sont celles qui sont autorisées. Il va regarder la taille des poissons, parce que certains poissons doivent être relâchés s'ils sont trop petits. Souvent, on fixe une taille pour être sûr que les poissons se soient reproduits avant d'arriver à une taille où on peut les garder. Donc, c'est le cas de la truite. Depuis 2 ans, il y a aussi une démarche départementale pour qu'on ne pêche plus avec des hameçons, avec ardillons. Donc c'est ce petit appendice qui est un petit au-dessus de la pointe qui empêche l'hameçon de trop facilement ressortir. Donc peut-être que de temps en temps, on perd un petit peu plus de poissons qui se décrochent pendant le combat. Mais d'une manière générale, ça facilite le moment où on doit relâcher un poisson parce qu'on a décidé de ne pas le garder. On le relâche dans les meilleures conditions. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà préconisé depuis une dizaine d'années par beaucoup d'associations, qui est devenu une obligation réglementaire.
Ouais, par ailleurs, c'est très demandé par les pêcheurs, en fait. C'est assez paradoxal, hein. On pourrait penser que le pêcheur fuit le garde, mais pas du tout. Les pêcheurs, en tout cas, par exemple, pour ceux qui ont répondu à cette fameuse enquête, sont beaucoup revenus sur ce sujet-là, et ils ont...
Le sujet de l'ardillon ?
Sujet de la garderie.
D'accord.
En fait, vu qu'ils achètent une carte, ils cherchent à comprendre aussi où va le prix de leur adhésion, etc. Et eux, en fait, un des meilleurs moyens de le constater, c'est de voir de la présence au bord de l'eau. Et cette simple présence d'un garde particulier, en fait, ça rassure aussi pas mal le pêcheur. Et ça veut dire qu'aussi, il y a une surveillance du milieu aquatique. C'est pas forcément que de l'exercice de la pêche. C'est aussi plus général. C'est justement, est-ce que... il n'y a pas des pollutions, des dysfonctionnements, ce genre de choses. Et finalement, ça convient au plus grand nombre de pêcheurs, quoi.
Le dernier épisode de l'émission La Radio des Aînés, c'est donc l'émission de Radio Bartas qui donne la parole aux résidents de la maison de retraite de Florac. Elle portait sur... chaque mois, ils choisissent une thématique dont ils ont envie de parler. Et la dernière émission, ils ont choisi de parler du braconnage. Donc à l'époque, ils étaient nombreux, les Cévenols, à chasser ou à pêcher pour se nourrir parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter la viande ou le poisson, ni de payer pour le permis en ce qui concerne la chasse. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore, le braconnage de pêche ?
ça existe, ça reste anecdotique. En fait, les histoires qu'on a tous entendues quand on est pêcheur, c'est ouais, elle n'était pas à la taille, on la mettait dans la botte, ou alors on en ramenait des seaux, etc. En fait, ça, c'est des pratiques qui ont existé certainement. Il y a peut-être un peu aussi de fabulation d'une époque passée, mais on n'a plus vraiment affaire à des actes de braconnage délibéré où les gens veulent vraiment aller à la pêche pour manger,
nourrir.
Quoi. En fait, il y a certains secteurs qui peuvent être assujettis à des pratiques problématiques, mais dans la plupart des cas, notamment les gardes, ce qu'ils vont contrôler, effectivement, c'est soit des erreurs d'attention, soit quelqu'un qui a changé de secteur de cours d'eau et du coup la réglementation a changé, mais lui, il n'a pas fait attention. Enfin, voilà, c'est... Mais le braconnage n'est pas le principal sujet, en tout cas pour nous.
Et depuis janvier 2026, les pêcheurs de loisirs de l'Union européenne, ils doivent obligatoirement déclarer leur prise sur une application qui s'appelle RegFishing dans le but de mieux connaître le nombre de pêcheurs et les espèces pêchées et le nombre de prises effectuées. Mais ça concerne la pêche de loisirs en mer, n'est-ce pas ? Ça concerne pas l'eau douce.
Tout à fait. Nous, on a déjà ces chiffres, en fait, de par les adhésions. On sait exactement combien on a de pêcheurs sur chaque territoire. Et on ne peut pas connaître exactement, notamment au niveau des prélèvements, ce qui se passe. Mais on se donne une bonne idée. En fait, la différence avec le milieu marin est énorme. Nous, on a des petits cours d'eau. On peut connaître les populations et on peut les suivre d'année en année pour contrôler et puis voir l'évolution de cette population. En mer, c'est beaucoup plus délicat. On ne peut pas évaluer le cheptel facilement. Et du coup, effectivement, il y a une pression qui est mise sur les pêcheurs de loisirs qui n'est pas toujours très bien reçue par ailleurs. Parce que eux pensent être une part infime du problème
par rapport aux gros chalutiers,
à d'autres d'autres enjeux plus industriels, on va dire. Donc ça, ouais, ça fait jaser. Par ailleurs, cette application là, pour le moment, ça se lance, mais il y a rien qui peut obliger le pêcheur à faire ses déclarations.
À part des contrôles impromptus sur le bateau, mais
quand bien même, en fait, on peut pas obliger quelqu'un déjà à avoir un smartphone à la pêche. Puis un peu, c'est aussi ce que défendent certains, c'est de se dire on va à la pêche pour se déconnecter. S'il faut enregistrer ses prises, quand est-ce qu'on va à la pêche, comment on y va, où est-ce que je vais, etc. En fait, c'est un peu antinomique avec la pratique de base. Et bon, bref, c'est un sujet qui ne nous touche pas directement, mais ça reste la pêche de loisirs et une atteinte à la pêche de loisirs. Donc on a tout intérêt à regarder ce qui se fait quand même sur d'autres territoires.
On a commencé à l'évoquer très rapidement en parlant donc des hameçons sans ardillons qui sont désormais obligatoires depuis l'année 2025. Obligatoires en Lozère ou dans toute la France ?
En Lozère.
En Lozère. Donc là, voilà, il est un peu question de bien-être animal, parce que c'est-à-dire que quand on retire cet hameçon, on déchire moins les lèvres du poisson, on peut le remettre à l'eau. J'aimerais qu'on aborde un peu plus en détail cette question du bien-être animal qui peut être polémique. On va voir, en tout cas pour commencer, pour lancer le minuscule débat, je vais vous faire entendre les propos de Amandine Saint-Vicens, je ne sais pas si je prononce bien son nom. C'est la cofondatrice de PAZ pour Projet Animaux Zoopolis, qui est une association de défense des animaux dans la mouvance qu'on pourrait qualifier d'antispéciste. Elle était l'invitée de l'émission La Terre au Carré de Mathieu Vidard sur France Inter. C'était le 10 février dernier.
Je suis quand même atterrée qu'il y ait encore un déni de la part de certains pêcheurs sur la souffrance des poissons. C'est quand même d'en être encore là aujourd'hui, de nier le fait qu'ils souffrent. Tout ça pour légitimer leur loisir, je trouve ça quand même assez étonnant et pour ne pas dire déplorable.
Mais qu'est-ce que vous demandez en fait à terme ?
Alors nous, ce qu'on demande,
c'est qu'on interdise complètement la pêche de loisirs ?
Non, nous, ce qu'on demande au gouvernement et aux parlementaires, c'est une réforme de la pêche de loisirs au regard de la souffrance animale. Aujourd'hui, dans les textes de loi en France, il y a aucune mesure, aucune réglementation qui vise à limiter, à encadrer, on va dire, la souffrance des poissons. Et donc, on demande une série de réformes, notamment, par exemple, l'interdiction de la pêche au vif, qui est une pratique qui consiste à utiliser un poisson vivant comme appât.
On en reparlera, oui.
Voilà, aussi l'empoisonnement dans le but de pêcher, comme là, ça a été dit à Saint-Étienne. Donc, c'est des réformes pour limiter au maximum la souffrance des poissons. Nous, ce qu'on demande, c'est au gouvernement de prendre en considération tous les points de vue. Aujourd'hui, il y a uniquement la FNPF qui est prise au sérieux par le gouvernement. Tous les projets de réforme réformes qu'on propose sont balayées d'un revers de la main. Il n'y a rien qui passe. Il y a un blocage, il y a un mépris sur la souffrance des poissons. Et ça qui est inacceptable.
C'est-à-dire que la souffrance des poissons, aujourd'hui, c'est pas sérieux presque, quasiment ?
Pour le gouvernement, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas pris au sérieux, clairement.
Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans ces propos. Je ne sais pas si vous voulez commencer à réagir, Yann.
Une réaction personnelle, moi, je ne pense pas qu'on ferme les yeux sur la souffrance animale. On en est conscient. Et beaucoup de pêcheurs essaient d'adapter leurs pratiques. On a parlé de l'ardillon là, pour relâcher les poissons beaucoup plus facilement. Contrairement aux chasseurs, nous, on ne voit pas forcément ce qui va mordre à l'hameçon sous la surface. Et voilà. Et c'est souvent une fois que le poisson est dans notre épuisette que là, on se dit « Ah, il est trop petit, je vais le relâcher ou je vais le garder pour le consommer. » Voilà, en lui offrant aussi une forme de respect en le cuisinant bien, en faisant un moment convivial avec la famille et les amis. Donc moi, j'en suis conscient et je fais au mieux pour réduire le stress et cette souffrance, effectivement. En tout cas, nous, on en est conscients. C'est un débat qu'on peut avoir. Mais là, moi, pour parler de Paz, je pensais que ça ne nous concernait pas parce que c'est une association parisienne. Et l'année dernière, on a été dans le viseur. Et j'ai trouvé que c'était des gens assez agressifs. Et je n'ai pas eu le sentiment d'avoir en face des gens avec qui on pouvait discuter, quoi.
Johan, avant de te donner la parole, Charles, je voulais avoir ta réaction, toi, en tant que jeune pêcheur. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces propos ?
En tant que jeune pêcheur, il y a énormément la pratique du no-kill qui est apparue ces dernières années. Et moi, en l'occurrence, je le fais le plus souvent possible. Mais moi, ce que j'essaye le plus de faire, c'est quand un poisson est, par exemple, mal piqué, je vais privilégier ce genre de poisson à prélever que des poissons qui peuvent repartir dans de parfaites conditions.
Mais sur la pratique du no-kill, par exemple, est-ce qu'on peut la considérer réellement comme compatible avec le bien-être animal ? Parce qu'ils ressentent quand même... Voilà, il y a un consensus, en tout cas scientifique, sur le fait que les poissons ressentent la douleur. Donc là, il s'agit quand même d'attraper un poisson. Il s'accroche quand même à un hameçon. Donc il y a quand même une souffrance. Il y a quand même la peur, l'anxiété, qui sont des émotions que les poissons, ressentent. Comment est-ce qu'on répond à ça ? Comment est-ce qu'on s'accommode de ça ? C'est-à-dire de faire subir ça à un poisson pour le relâcher. Vous, quelle est votre position ? Voilà, même presque peut-être philosophique, ou comment vous vous situez ?
Oui, c'est un sujet qui peut être assez délicat. Et pour ma part, voilà, j'ai vraiment un intérêt à la cause naturaliste en général. Donc c'est des choses que j'ai retournées maintes et maintes fois dans ma tête. Des fois, j'ai essayé de me rassurer aussi sur certains principes en me disant que finalement... C'est peut-être un peu bête d'ailleurs, mais je vais vous donner un exemple très concret. Il arrive qu'un poisson sauvage, qui soit né dans un cours d'eau ou dans un lac, morde deux fois de suite dans la même journée. Qu'on soit capable de l'identifier et qu'il soit capable de retourner sur cette ligne. Donc, il y a un traumatisme, il est indéniable. Mais néanmoins, effectivement, l'anthropomorphisme, c'est ce que tu citais, Yann, je crois que des fois, ça fait un peu des dégâts. Et je suis pas complètement certain que ce soit la bonne approche. Par ailleurs, l'empathie qu'on est capable de développer pour les milieux naturels, pour les milieux aquatiques, pour ce qui se passe là-dessous, en contrepartie, c'est énorme aussi. Et en fait, les pêcheurs, on compte sur des gens qui vont au bord de l'eau pour être les sentinelles de ces milieux-là et pour nous faire remonter des informations qui sont cruciales des fois pour la gestion d'une catastrophe. L'année dernière, on a eu un incident avec une pollution très localisée. Mais en fait, s'il n'y a pas les pêcheurs pour nous signaler qu'il y a des poissons qui tournent le dos et là, il y a un problème, en fait, on ne le fait pas. Enfin, ou alors, il faut attendre un passage quelconque. Mais disons que
oui,
c'est vraiment
des... Oui, vous êtes les vigies de la rivière.
Aussi. Mmh. Alors, ça balaye pas complètement le sujet. Hein. On est bien d'accord. Mais... on peut faire les choses en conscience aussi, et je pense qu'aussi on est tous capables, en tant que pêcheurs, de savoir ce qu'on est capable d'accepter d'infliger à ces animaux. Il y a une blessure, elle est indéniable, on le sait.
Voilà, il y a beaucoup de contradictions dans la vie et vous n'êtes pas là
pour
répondre
c'est ça.
À toutes.
C'est ça.
Juste pour en finir sur ces questions un peu polémiques, pour revenir sur une autre pratique qu'évoque donc Amandine Saint-Vincent là dans l'intervention qu'on a entendue, c'est l'empoisonnement. Donc ça, c'est pas forcément non plus très connu que parfois la pêche de loisir en fait peut se pratiquer grâce à des poissons qui ont été élevés qu'on relâche ensuite dans les cours d'eau. Est-ce que ça se fait beaucoup en Lozère et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pratique qui peut poser question également ?
Je veux répondre pour la localement, en tout cas, nous, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de, au moins 10 ans, qu'il n'y a plus d'introduction de poissons sur le Tarn et ses affluents. C'est un choix parce qu'on a constaté que c'était des cours d'eau où il y avait une reproduction naturelle et que c'était dans ce cadre-là ce qu'il fallait privilégier et pas amener des poissons de pisciculture qui pourraient éventuellement se mélanger sur le plan génétique avec une souche qui est parfaitement adaptée au territoire, aux crues, aux sécheresses, aux particularités de nos rivières. Il y a même eu une étude du parc, je crois, il y a une quinzaine d'années, sur la génétique des poissons.
Le parc national des Cévennes.
Le parc national des Cévennes, qui a montré qu'il n'y avait pas trop eu de mélange. En gros, ces poissons extérieurs, ils n'avaient pas su vraiment s'adapter et puis apporter leur génétique localement, sûrement, ils n'avaient vraiment pas pu s'adapter. Donc nous, la PPMA, l'association locale, on a arrêté. Je sais que ça se fait encore, plutôt dans des cours d'eau plus gros, et avec des conditions justement de reproduction qui sont compromises.
Ouais, moi je veux bien compléter là-dessus. La fédération ne se cache pas du tout sur ces sujets-là. Je veux dire, je pense même que c'est clair pour pas mal de gens qui vivent au bord de l'eau ou qui ont connaissance de ces sujets. Oui, effectivement, il y a des empoisonnements. Et généralement, en fait, ils sont ciblés effectivement sur des secteurs où on n'est pas susceptible de déranger une faune qui peut être sensible. Donc je pense notamment aux lacs, aux étangs sur lesquels on peut avoir ce type de pratique, et par ailleurs sur des cours d'eau où celles qu'on a choisies comme espèces repères. Alors quand je dis on, c'est pas nous à la Fédération de pêche, c'est en fait quand on habite en Lozère sur un secteur de moyenne montagne, les cours d'eau correspondent à une multitude d'espèces, mais celle qui les représente le mieux par rapport aux caractéristiques environnementales, c'est la truite fario. Et donc quand on a des cours d'eau qui se portent bien, on tente dans beaucoup de cas, en tout cas, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'empoisonnement, et effectivement, sont ciblés des fois des périodes particulières, parce qu'il y a aussi des pêcheurs qui ont, mettons, une mobilité réduite, ou des jeunes qui ont envie de s'initier avec des poissons qui sont effectivement parfois plus accessibles en termes de technicité.
Moins craintifs.
Peut-être moins craintifs, effectivement, et du coup, ça permet aussi ça permet à certains de franchir ce pas-là. Mais c'est des secteurs ciblés et des périodes ciblées. Donc c'est pas toute l'année et c'est pas pour ces poissons ont vocation effectivement à être pris rapidement en général.
Et à être mangés. Donc là, il s'agit pas de faire du no-kill, on les relaisse pas dans la rivière pour pas qu'ils se mélangent avec les espèces endogènes.
Les gens qui vont sur ces secteurs, en général, ils y vont pour prélever et manger un plat de truite le soir. Voilà.
C'est comme faire son marché, mais dans l'eau.
Ouais, un petit peu, si on veut. En tout cas, le marché, on peut y aller pour loisir aussi, mais la pêche est au cœur de ça, quoi.
Les événements à venir, alors, il va se passer des choses bientôt à Florac avec l'association. Moi, je dis Association 4 Rivières, mais toi, tu énonces toutes les lettres de cet acronyme qui m'est trop compliqué.
Non, on peut s'épargner ça, oui. Ouais.
Donc, l'Association 4 Rivières, il se passe quelque chose. Votre prochain événement, c'est le 18 avril, Yann.
Ouais, on est heureux d'accueillir une manifestation départementale organisée par la Fédération départementale de pêche, le 18 avril à Florac. Donc la dernière édition était à Mende. Et là, c'est une journée destinée aux enfants et adolescents de 8 à 16 ans, avec une journée de jeux, d'activités gratuites au bord du Tarnon, dans Florac. Il y aura des activités le matin sous forme de rallye ludique avec des quiz, des jeux de précision, des choses comme ça. Nous, on est mobilisés en tant que bénévoles pour encadrer des petits groupes. Un petit moment convivial à midi, puis l'après-midi, ça sera plus pêche libre ou avec les guides moniteurs de pêche qui sont des professionnels et qui vont partager leurs conseils pour tout type de technique.
Est-ce que toi, Johan, tu voudrais aussi t'engager pour initier les plus jeunes à la pêche dans une association après ton apprentissage
Après mon apprentissage, du coup, j'aimerais effectuer une formation, c'est le BPGEPS pêche de loisirs, pour déboucher sur de l'animation pêche ou être guide de pêche.
Et en faire ton métier.
Exactement.
Métier passion. Merci beaucoup.
Un dernier mot.
Oui.
Par rapport aux 18. Alors nous, tous nos jeunes, ils se sont inscrits pour la manifestation, mais je crois qu'il reste un peu de place.
Il reste quelques places. Si vous souhaitez effectivement inscrire quelqu'un dans vos connaissances qui est âgé entre, on a fixé les jauges à
8 à 16 ans.
8 à 16 ans, effectivement. Vous pouvez nous contacter à la Fédération de pêche, mais il va falloir faire vite parce que les places sont chères. Voilà.
L'action est gratuite, mais les places sont rares.
Et je remettrai tous vos contacts sur le site internet de Radio Bartas. Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion éclairée sur la pêche en Lozère. Je vous prends un peu à dépourvu parce que j'aurais dû vous demander avant, mais un choix musical peut-être pour clore cette émission, un morceau de musique qui vous évoque la pêche ou wow. Je sais pas, la communion avec la nature en Lozère.
Moi, j'ai un truc printanier, là. Quand vient le printemps, j'ai souvent une chanson qui revient, Irish Jig de Gwendal.
Ok, bah on va écouter ça. Irish Jig de Gwendal sur Radio Barthes.
Et des poussières.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas. Merci d'être à l'écoute. On poursuit cette émission aujourd'hui avec, comme chaque mardi, la traditionnelle chronique La Minute de Masque. La Minute de Masque. Un morceau de musique raconté par Max en une minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Salut Max.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue de nouveau dans le studio de Radio Bartas. De quoi on va parler ? Qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui ?
Ben, un petit morceau sympathique qui me rappelle quelques petits jolis souvenirs de Véronique Sanson.
Histoire sur ma drôle de vie.
Ah voilà, souvent on dit drôle de
vie. Ah non, chanson sur ma drôle de vie.
Souvent on dit drôle de vie tout court parce que ça fait un peu long. Et voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup depuis longtemps. Et c'est un album, d'ailleurs, c'est extrait d'un album que j'aime pas mal aussi, de l'époque, où elle était un peu triste, qu'elle a écrit des beaux textes.
Album qui s'appelle « De l'autre côté de mon rêve », c'est ça ?
Peut-être, oui. Alors là, je te fais confiance là-dessus.
1972, là, je travaille dur, j'ai ouvert Google devant moi. Et pourquoi tu l'aimes, ce morceau? Raconte-nous, qu'est-ce que ça te rappelle, qu'est-ce que...
Mais je sais pas, c'est vraiment une question de feeling. Enfin, j'aimais bien un peu sa texture de voix. Elle avait tendance à crier un peu. J'aimais bien ça à une époque. Et donc voilà, c'est juste, quand je l'ai écouté, ça m'a plu. Puis depuis, maintenant, j'ai fait des jolies rencontres aussi. Et j'ai une copine d'ailleurs auquel je lui dédicace ce morceau. Et que souvent, quand on l'entend ensemble, eh ben, du coup, on danse ensemble aussi.
Ok, et eh ben, on va l'écouter alors. Et puis on en reparle après.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi.
Sur ma drôle de vie de Véronique Sanson, c'était le choix de Max. Est-ce que tu dirais que c'est une chanson qu'on écoute quand on est heureux?
Ben, peut-être, oui, que ça... elle est plutôt joyeuse, mais je crois qu'elle quand elle l'a écrite, elle était, elle, pas bien. D'ailleurs, elle avait un gros chagrin d'amour et elle est devenue alcoolique après.
Ok, donc...
Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, non, la musique est bien, je trouve, et les paroles sont pas si connes que ça, quand même.
Ouais, c'est un peu une invitation quand même à danser, à chanter la vie, comme on dit.
Ouais, ouais, ça m'a toujours plu, oui. Puis elle assure au piano, donc voilà. C'est de la bonne variété, je trouve, quand même.
Ouais, c'est de la bonne variété. Et je faisais donc mon travail pendant qu'on écoutait le morceau. Autrement dit, j'étais sur Wikipédia. Je suis totalement transparente avec vous sur Radio Bartas. Et j'ai lu quand même que le papa de Véronique Sanson était apparemment très pointilleux sur la grammaire et il n'était pas du tout content de la phrase quand elle dit « et je fais ce que j'ai envie » parce que selon lui, c'est pas du tout convenable grammaticalement. Il manque une suite à la phrase, il faudrait dire « et je fais ce que j'ai envie de faire » ou alors il faudrait dire « et je fais ce dont j'ai envie ». Autre chose, Max?
Non.
Ce sera tout?
Pour aujourd'hui, ce sera tout.
Et est-ce qu'on a eu des propositions de réponses à notre nouveau quiz?
Ah non, là, j'ai...
Rien ?
Non.
Bon, bah, on le relance peut-être alors.
Oui, mais je m'en souviens déjà plus. Là.
Bah, si, il fallait trouver. Donc, écoutez bien, vous devez trouver, chères auditrices, auditeurs, le groupe pour lequel Max a été rôdi à l'époque, dans ses jeunes et folles années. Et on avait donné un indice la dernière fois, c'est un groupe qui a des affinités amicales avec les Ludwig von 88.
Voilà, c'est ça.
Donc n'hésitez pas à nous contacter, soit via Radio Bartas, soit via les Volets Rouges, auprès de Max directement. Merci Max, à la semaine prochaine.
Merci à toi, à bientôt.
À bientôt. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve demain, rendez-vous à midi et des poussières précises pour un prochain épisode. Salut !